Voilà, et bien effectivement, maintenant, c'est la place à l'Uni, à la Ligue des droits de l'homme. Je vais vous lire l'annonce. Voilà pour cette émission qui va passer dans quelques petites secondes. Voilà, c'est l'émission de la section École des études de sciences sociales, hein, EHE2S de la LDH. Et aujourd'hui, donc le 2 décembre, le gouvernement par l'état d'urgence dérive de la démocratie ? Point d'interrogation. Alors avec Arié Halimi, avocat et membre du bureau national de la LDH, le coup d'état d'urgence, surveillance, répression et liberté, aux éditions du Seuil 2021. Voilà un bouquin de 175 pages. Et puis Stéphanie Hennette Vaucher, professeure de droit public à Paris-Nanterre et présidente du Centre de recherche et d'études sur les droits fondamentaux, le CREDOF de l'Université de Nanterre. Alors voilà, elle présente aussi un ouvrage, eh bien, La démocratie en état d'urgence, quand l'exception devient permanente. Sorti au Seuil cette année, voilà, 2022, voilà, 224 pages. La présentation sera faite par Liora Israël, directrice d'études à l'EHESS, auteur de L'arme du droit, qui est sorti en 2020 aux Presses de Sciences, voilà, Presse de Sciences Po, exactement, 2020, j'ai dit, deuxième édition. Donc je vous laisse donc pendant 70 minutes avec ces interviews.
Alors, à brûle-point, une définition de l'état d'urgence. Un état d'urgence, en général, c'est, disons, un régime juridique qui est censé permettre de faire face à une situation de crise, à des circonstances exceptionnelles. C'est probablement ici la définition la plus générale qu'on peut donner. Et si on resserre la focale en s'interrogeant sur ce qu'est l'état d'urgence spécifiquement en droit français, c'est également une question intéressante, puisque ce qu'on appelle l'état d'urgence, c'est en réalité un dispositif, un régime législatif qui a une origine historique bien précise, qui est celle de la guerre d'Algérie, puisque après le début de certaines actions violentes du FLN au moment de la Toussaint Rouge en novembre 1954, pouvoir décide de se doter d'un cadre juridique spécifique dans lequel il est possible en réalité d'accroître de manière considérable les pouvoirs de l'autorité administrative, hein, donc des représentants du gouvernement sur le territoire algérien, en termes de réglementation et donc interdiction de la circulation des personnes, réglementation et donc interdiction ou fermeture d'un certain nombre de lieux, contrôle des médias, assignation à résidence, perquisition administrative, etc. Et ce régime de l'état d'urgence, il est défini dans un texte qui est la loi du 3 avril 1955, qui jusqu'en 2011 conserve pour titre officiel loi relative à l'état d'urgence en Algérie. Et en 2011, on se rendra compte que c'est un petit peu obsolète, donc on procédera à un toilettage en enlevant simplement la mention en Algérie dans le titre, mais le texte de la loi demeure. Et c'est un texte qui a vraiment cette origine coloniale très forte, qui est donc une loi de circonstance pour faire face à ce qu'on ne veut pas appeler à ce moment-là la guerre d'Algérie, parce que sinon on pouvait déclencher par exemple l'état de siège, hein, mais il y avait évidemment ici des connotations militaires qu'en 1954-55 on voulait précisément éviter. Donc il y a vraiment une origine coloniale très importante, loi de circonstance, et qui va être en fait appliquée à trois reprises en lien direct avec la guerre d'Algérie, en 55, en 58 et en 61, et qui en fait va tomber un peu dans l'oubli par la suite, qui sera réactivé 20 ans plus tard, en 84-85, au moment où il y a des conflits entre indépendantistes et loyalistes en Nouvelle-Calédonie, avec en l'occurrence au Sénat une petite discussion sur « Ah mais est-ce qu'on peut vraiment appliquer un texte qui s'appelle « Loi relative à l'état d'urgence en Algérie, en Nouvelle-Calédonie » ?» Et puis, nécessité faisant, on a passé outre ce point de détail. Donc on a à nouveau l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie, mais uniquement sur le territoire calédonien pendant quelques mois. Et puis, il sera appliqué à nouveau en 2005 au moment des émeutes urbaines qui font suite à la mort de Zied Bena et Bouna Traoré dans une course-poursuite avec la police dans un local électrique. Là encore, on a un état d'urgence qui va durer, j'ai pas la date exacte, mais qui va durer un mois ou deux, enfin décembre 2005, janvier 2006. Ça, c'est ce qu'on peut dire, en fait, l'histoire française de l'état d'urgence. C'est quoi l'état d'urgence en droit français ? C'est ça, c'est ce dispositif-là, ces applications-là. Et il me semble que on peut pas raconter l'histoire exactement de la même manière. C'est-à-dire, si on était en 2007, je m'arrêterais là. Enfin, évidemment, mais je crois qu'on peut pas raconter l'histoire exactement de la même manière désormais, parce que c'est pas seulement qu'il y a eu d'autres applications de l'état d'urgence, mais les autres applications de l'état d'urgence qu'il y a eu depuis ont, me semble-t-il, sensiblement altéré la signification de ce dispositif. Alors, les autres applications qu'on a eues, quelles sont-elles ? La première, c'est l'état d'urgence antiterroriste qui est déclenchée dans la nuit du 13 au 14 novembre 2015 et qui va durer formellement jusqu'au 1er novembre 2017. Et puis, quelques temps plus tard, donc on est sous état d'urgence antiterroriste pendant près de 2 ans, et peu après, c'est-à-dire en mars 2020, lorsque la pandémie de Covid-19 se révèle comme étant véritablement une menace d'importance, le gouvernement fait le choix d'y répondre en créant de nouveau un régime d'état d'urgence, qui est l'état d'urgence sanitaire, qui est créé par la loi du 23 mars 2020 et sous l'empire duquel nous vivons encore aujourd'hui. Donc on a deux expériences de l'état d'urgence, l'une qui a failli fêter son second anniversaire, la seconde qui va le fêter dans quelques jours, et il me semble que c'est pas du tout quelque chose d'anodin, parce que le fait qu'un régime juridique prévoit un dispositif de suspension, de dérogation de règles spéciales en situation de crise ou en situation de circonstances exceptionnelles, en soi, c'est pas quelque chose de très remarquable. C'est le cas dans une extraordinaire majorité de pays dans le monde. En revanche, le fait de gouverner durablement au moyen de ce type de régime, me semble-t-il, est une question tout à fait distincte, enfin qui mérite véritablement d'être distinguée et qui est une question tout autre. Parce que là, évidemment, quand on a des états d'urgence qui, d'une part, deviennent une sorte de réflexe, c'est-à-dire ah, problème terroriste, état d'urgence, ah, problème pandémique, état d'urgence, et puis il y a tous les autres états d'urgence, parce qu'il y a d'autres états d'urgence qui saturent un peu notre imaginaire politique, hein. Les présidents Hollande et Macron ont tous les deux parlé d'état d'urgence économique et sociale. Le premier au moment de la mobilisation contre la loi travail, le second au moment des Gilets jaunes. Le secrétaire général de l'ONU appelle quant à lui à déclarer l'état d'urgence climatique. Enfin, vous voyez, on parle tout le temps d'état d'urgence. Donc, en fait, ça s'inscrit un peu comme un espèce de réflexe de gouvernement face à des situations, face à des défis spécifiques. Et non seulement c'est un réflexe, mais en plus, c'est un réflexe qui s'ancre vraiment dans la durée. C'est des états d'urgence qui durent. En cela, qui d'une certaine manière deviennent de nouveaux paradigmes de gouvernement. Enfin, c'est une corde à l'arc gouvernemental des options, des mécanismes, des dispositifs avec lesquels on fait cette chose particulière qui s'appelle gouverner un pays ou gouverner une population. Donc voilà, ça c'est un peu peut-être quelques réflexions pour commencer, pour ouvrir.
Merci pour votre accueil d'abord. Moi, je ne saurais pas comment, en tout cas pour l'instant, vous décrire ce qu'est l'état d'urgence. Je suis juriste, comme Stéphanie, mais je pense qu'on en est qu'au début de l'appréhension de ce que ça peut être. Et je pense qu'on n'a pas encore véritablement la grille de lecture. Je ne crois pas que ce soit par le droit que l'on puisse définir l'état d'urgence. Je ne crois pas non plus que l'état d'urgence ne soit qu'une forme de droit spécifique et exceptionnelle. C'est une approche très empirique que j'ai pu avoir de l'état d'urgence. Enfin, c'est important que je vous dise que c'est empirique, parce que je pense que selon le type d'approche, on en a une vision un peu différente. Moi, j'ai découvert d'abord l'état d'urgence à l'EHESS, le Centre des normes juridiques, quand j'étais étudiant, avec un professeur qui s'appelait Yann Thomas, et au cours d'une conférence avec Giorgio Agamben, qui était venu à l'EHESS, boulevard Raspail, et qui nous avait parlé de ce qu'était l'état d'urgence et de sa vision de l'état d'urgence, puisqu'il a beaucoup travaillé dessus. D'ailleurs, je vous suggère vivement la succession d'ouvrages qu'il a écrit là-dessus, mais notamment l'état d'exception. Et effectivement, on a plusieurs auteurs, d'un point de vue doctrinal, qui donnent leur vision, une vision différente. On a évidemment l'un des plus grands penseurs du droit constitutionnel et à la fois l'un de ceux qui se sont ralliés au nazisme, à savoir Carl Schmitt, puisqu'il a été l'un des penseurs du régime nazi, qui pourtant avait une vision très précise de ce qu'était pour lui l'état d'exception. C'est un moment où l'on peut définir ce qu'est la souveraineté. Je suis souverain parce que je décide de la suspension de l'ordre juridique, et c'est ça l'état d'urgence. Et on a une autre vision, qui est celle de Giorgio Agamben, qui lui considère que c'est un moment où il n'y a plus de normes du tout. On a la vision de Saint-Bonnet, qui est un prof de droit public, qui considère qu'au contraire, ça s'inscrit totalement dans l'ordre juridique. Il y a la vision de Stéphanie, qui considère que, loin d'être de l'anomie, si je me trompe, tu me dis tout de suite, au contraire d'Agamben, c'est pas de l'anomie, c'est au contraire de l'hypernomie. C'est-à-dire qu'il y a une multitude de normes qui, à une inflation législative ou normative, ou même réglementaire, à un moment donné, qui diagnostique en tout cas cet état d'urgence, qui n'est pas vraiment d'ailleurs l'état d'exception au sens schmittien, puisqu'on est toujours dans le droit. Et ça s'inscrit dans le droit. Effectivement, il y a une loi. Il y a des lois. Il y a la loi de 1955. Et puis, il y a eu l'application de cette loi qui a été modifiée au moment notamment du 13 novembre 2015, qui a restauré l'état d'urgence, qui a instauré un état d'urgence. Il y en a eu avant, pendant dans les quartiers populaires spécifiquement. Il y en a eu pendant les mouvements indépendantistes. Et puis, il y a celui dans lequel on vit, qui est une autre loi, qui a été créée sur le moule de la loi de 1955, mais qui n'est pas la loi de 1955 et qui concerne la situation sanitaire. Donc j'ai découvert de manière assez doctrinale et en même temps, j'ai pas vraiment compris ce que c'était l'état d'urgence à cette époque-là. Je sais toujours pas véritablement ce que c'est. Mais j'ai eu une autre approche qui était une approche beaucoup plus empirique, cette fois en tant qu'avocat et militant. Je l'ai découvert d'abord le 13 novembre 2015, lorsqu'il s'est agi de l'application des mesures la restauration de l'état d'urgence face à la menace terroriste à la suite des attentats du 13 novembre 2015. Déclaré dans la nuit du 13 au 14, par décret, prorogé et constaté par le Congrès, réuni à Versailles, et qui a instauré un certain nombre de mesures qui effectivement transfèrent des pouvoirs de l'ordre judiciaire vers l'ordre administratif, notamment des mesures emblématiques qui sont les perquisitions administratives, c'est-à-dire qu'on pouvait venir perquisitionner en pleine nuit ou en plein jour chez des personnes sur simple décision du préfet, sur la base de notes blanches ou de renseignements qui émanaient d'on ne sait où, d'ailleurs c'est aussi une problématique. Frapper à la porte, casser des portes de famille, rentrer. Là, je vous parle de ce que j'ai vu, parce que j'ai défendu un grand nombre de personnes qui ont été perquisitionnées administrativement et, par la suite, pour certains ou certaines, assignées à résidence également de manière administrative. C'est la deuxième mesure emblématique de l'état d'urgence de 2015, décidée par le préfet et le ministre de l'Intérieur, qu'une personne, après avoir été perquisitionnée ou pas, d'ailleurs, devait rester chez elle, devait la nuit, hein, pendant au maximum 12 heures en principe, et devoir pointer au commissariat la journée jusqu'à 3 fois. Quelquefois on a vu 4 fois, mais c'était illégal, parce que c'était pas prévu par l'état d'urgence. Autant dire qu'on a eu des personnes qui ont eu une vie qui était conditionnée par cette perquisition, par cette assignation à résidence, qui ne pouvait rien faire d'autre que pointer au commissariat la journée, aller de commissariat à chez elle, ne plus pouvoir travailler, ne plus pouvoir accompagner leur gamin à l'école, avoir une vie transformée, une forme d'emprisonnement, mais le Conseil constitutionnel a considéré par la suite qu'il ne s'agissait pas d'une mesure privative de liberté, mais d'une simple restriction de liberté, puisque en dessous de 12 heures, c'est de la restriction, au-dessus de 12 heures, c'est de la privation. Donc effectivement, et Stéphanie le décrit très très bien dans son ouvrage, il y a eu une adaptation de l'état de droit aux mesures décidées dans le cadre de l'état d'urgence, et pas l'inverse. Donc ça, c'est la première chose, ce sont des mesures qui sont prises par le préfet, non plus par le juge judiciaire. Normalement, tout ce qui est mesures attentatoires aux libertés individuelles, la liberté d'aller et venir, la liberté de travailler, la liberté d'entreprendre, le droit de propriété, quand on est chez soi, l'atteinte à l'intimité de la vie privée, tout ça, c'est régi par le juge judiciaire, qui constitutionnellement est garanti par l'article 66 de la Constitution, même si c'est pas aussi clair que ça, et qui fait du juge judiciaire, qui est un juge indépendant, Le juge garant des libertés individuelles. Donc si le gouvernement décide de restreindre la liberté de quelqu'un, on doit aller devant un juge judiciaire, demander l'autorisation, habituellement, dans le cadre d'un état de droit traditionnel. Et en état d'urgence, c'est pas le cas, il suffit d'une décision du préfet. Il y a toujours évidemment la forme des garanties qui est conservée, puisqu'on peut toujours avoir un recours contre ces mesures, devant le juge administratif cette fois et non pas devant le juge judiciaire. Sauf que le juge administratif, il a une autre façon de juger. Il juge plutôt les excès de pouvoir, plutôt ou les inégalités, mais plutôt que le fond et la question de savoir si la personne doit être privée de sa liberté. Il est moins protecteur, pour tout dire et pour résumer, il est moins protecteur des libertés individuelles que le juge judiciaire. Donc voilà ce que moi j'ai pu voir et les personnes que j'ai pu défendre devant le juge administratif en référé liberté, puisqu'on avait un recours dans les 48 heures, normalement ça prenait un peu plus de temps pour essayer de faire lever ces mesures. La plupart du temps elles étaient maintenues, puis le Conseil d'État, et la plupart du temps, moi en tout cas ce que j'ai pu voir, c'est que le gouvernement, le ministère de l'Intérieur, puisque c'était notre interlocuteur, le ministère de l'Intérieur décidait avant même la décision du Conseil d'État, avant même qu'on ait une audience devant le Conseil d'État, de lever la mesure d'assignation à résidence, de l'abroger, parce qu'ils se rendaient compte qu'ils n'avaient rien dans le dossier, à part quelques notes blanches. Et pour vous donner une conclusion schématique, hein, il y a eu très peu, mais je pense que Stéphanie nous donnera plus spécifiquement le chiffre, très peu de procédures judiciaires en matière terroriste sur les personnes qui ont été assignées à résidence et perquisitionnées pendant cette période. Vraiment infime, infinitésimale. Et n'ont pas été inquiétés par la suite. Autant dire qu'il y a eu un nombre incalculable d'erreurs, de négligences, mais qui ont bouleversé beaucoup de vies. Des personnes qui ont dû déménager. Et parce que quand vous avez vos voisins qui voient le GIGN débarquer chez vous et vous fracasser vos portes en pleine nuit, ben, on vous considère comme terroriste. Il y a eu des gamins qui ont vu leurs parents menottés, mis au sol. Ça, c'est la face, c'est tout ce qui est invisible dans les conséquences de ces mesures. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je vous le dis parce qu'on a une procédure judiciaire, on a déposé plainte contre le directeur des libertés publiques du ministère de l'Intérieur s'agissant de ces mesures qui ont été prises. Et on est devant un juge d'instruction. On a eu 6 ans, on a attendu 6 ans avant qu'un juge d'instruction soit enfin saisi parce qu'on a eu une bataille procédurale d'anthologie, ne serait-ce que pour un juge d'instruction puisse enquêter sur ce qui s'est passé au ministère de l'Intérieur, comprendre comment les notes blanches qui ont fondé ces mesures d'assignation à résidence ont été prises, par qui, sur quel fondement. Et évidemment c'est très opaque, mais aujourd'hui il y a une procédure judiciaire qui est en cours. On espère voir le résultat. On a une juge d'instruction qui nous suit sur les demandes qui ont été faites au ministère de l'Intérieur, donc on va peut-être avoir quelques éléments, premiers éléments de réponse. Mais on a aussi une défiance, une forme de peur de l'instance judiciaire quant à aller voir ce qui s'est passé derrière. Ils ont toujours peur d'aller voir ce qui se passe au sein du ministère de l'Intérieur. Comment ces mesures sont prises? Comme s'il y avait... alors que ce n'est pas ça la séparation des pouvoirs, hein, juste pour vous dire. Le juge judiciaire n'a pas, constitutionnellement parlant, d'interdiction d'aller voir ce qui s'est passé pendant cette période au sein de l'administration. Deuxième élément d'état d'urgence, c'est l'état d'urgence sanitaire. Et là aussi, on a défendu un certain nombre de personnes, on a travaillé, il y a eu des réseaux qui ont été constitués, militants, des réseaux d'études, d'analyses, il y a eu le réseau d'état d'urgence pendant l'état d'urgence de 2015, il y a eu des travaux qui ont lié des universitaires, des praticiens du droit, des organisations de droits humains, pour essayer de comprendre et combattre ces mesures, parce qu'on considérait effectivement qu'elles étaient profondément attentatoires aux libertés individuelles. Et pendant l'état d'urgence sanitaire, ça a été pareil. Vous avez eu, notamment, mais on l'a tous vécu, on le vit encore un petit peu, vous avez eu ce confinement généralisé qui a concerné toute la population. Autant dire que si les assignations à résidence qui ont concerné une partie de la population, essentiellement une population de confession musulmane, même s'il y a également quelques militants écolos pendant la COP21, mais majoritairement c'était des populations de confession musulmane parce qu'ils étaient musulmans, autant dire que ça a concerné toute la population, et ça vous le savez, pendant l'état d'urgence sanitaire. C'est une assignation à résidence généralisée, hein, si on veut schématiser. D'ailleurs, il y a un article de Paul Cassia qui est très intéressant là-dessus. Et la question, c'est justement comment comprendre la dynamique. Comment est-ce qu'on est passé d'une réduction de liberté qui concernait une partie de la population, en raison de leur confession, à l'intégralité de la population. Et on peut se dire s'il n'y a d'ailleurs pas une forme d'extension généralisée de ces mesures, qu'on peut schématiser comme une forme de tache d'huile. On commence géographiquement ou sur une petite partie de territoire, comme les quartiers populaires s'agissant des violences policières, et puis on l'étend à toute la population, comme on l'a vu pendant le mouvement des Gilets jaunes ou pendant les manifestations. Et bien c'est pareil pour l'état d'urgence, on commence sur une petite partie de la population et on l'étend à l'ensemble de la population. Il y a un élément d'analyse et de recherche à faire. Pour résumer, parce que je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais il y a ces réflexions-là sur ces mesures attentatoires aux libertés individuelles qui ont été permises sans véritable résistance de la population, en particulier pendant l'état d'urgence sanitaire. Elles s'expliquent d'un point de vue psychologique par l'état de sidération. Alors il faut bien... Je sais ce que n'est pas l'état d'urgence. Ça, je peux vous donner une réponse. L'état d'urgence, ce n'est pas l'urgence. Et malheureusement, il y a une confusion... qui a même été pensée, enfin qui a même été, enfin, qui a perduré, y compris dans les esprits pendant très longtemps de chercheurs. On fait la confusion entre la situation de crise, c'est-à-dire la situation d'attentat terroriste, de crise terroriste, ou la situation de pandémie, et l'État qui va, et la décision politique qui est prise d'instaurer des mesures à un moment donné pour essayer d'endiguer en face d'un péril imminent ou d'une pandémie. Des mesures visant à faire face à cette urgence. Et il y a une confusion entre cette urgence et l'état d'urgence. L'état d'urgence, ce n'est pas l'urgence. On aurait pu prendre d'autres mesures que l'état d'urgence. Pendant l'état d'urgence sanitaire, au début, on avait d'ailleurs un décret qui permettait au ministre de la Santé de prendre toutes les mesures possibles et imaginables en matière de pandémie pour faire face à une pandémie. Alors évidemment, c'était un peu fragile juridiquement. Donc on a justifié d'instaurer un nouvel état d'urgence pour renforcer juridiquement, pour que ce soit inattaquable et qu'on puisse prendre toutes les mesures qui ont été prises. Voilà pour cette approche empirique, mais pour finir en un mot, et puis après on va passer à la suite et je continuerai probablement, mais moi je pense que le droit et la grille de lecture du droit ne suffit pas à comprendre l'état d'urgence. L'état d'urgence, c'est pas uniquement une suspension d'ordre juridique, ça n'est pas une suspension de l'ordre juridique parce qu'il y a encore des mesures juridiques qui sont prises, il y a encore l'état de droit qui persiste, même s'il est profondément réduit. Et je ne pense pas qu'on puisse uniquement le comprendre par rapport à le comparer par rapport à l'état de droit. La comparaison état de droit et état d'urgence, à mon sens, n'est pas signifiante ou ne permet pas de comprendre ce qu'est l'état. Je vais poser un postulat et après on pourra en reparler. Ma réflexion aujourd'hui, et je ne l'avais pas encore quand j'ai écrit le bouquin, parce que c'était plutôt une réflexion empirique, le bouquin. Ma réflexion aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas véritablement de distinction, et d'ailleurs, on peut en parler par rapport à la guerre en Ukraine, en tout cas à l'attaque de l'Ukraine par la Russie. Il n'y a pas vraiment de distinction entre la guerre, la politique et le droit. Les trois sont des modes d'organisation des rapports de pouvoir individuel et collectif différents. Si on pose cela, sous réserve que cela puisse se vérifier dans un mode de réflexion, dans une analyse, si l'on pose cela, je pense qu'on peut plus facilement comprendre ce qu'est l'état d'urgence par rapport à l'état de droit, par rapport à des décisions politiques traditionnelles ou par rapport à l'état de guerre ou à l'état de siège. Voilà, c'est un postulat. On va y réfléchir.
Merci beaucoup déjà pour ces introductions, pour ces éléments déjà tout à fait passionnants. Peut-être qu'on peut encore se rapprocher de cet objet pour peut-être aller dans des détails ou dans des exemples de ce qui a bougé. Vous l'avez déjà un peu esquissé entre le premier état d'urgence post-attentat et l'état d'urgence sanitaire. Est-ce que aussi on a vu du point de vue soit des actes de la mise en œuvre, soit aussi des institutions de contrôle, une habituation ou une reprise des argumentaires entre l'un et l'autre, ou est-ce que ça s'est fait comme si c'était deux choses totalement différentes ?
Non, moi je crois que ça s'est fait un petit peu de la même manière. Il me semble que les acteurs ne sont pas forcément les mêmes, parce que les problématiques ne sont pas les mêmes. On ne mobilise pas au sein de l'appareil d'État les mêmes acteurs exactement dans la lutte contre le terrorisme et dans la lutte contre la pandémie, par exemple. Mais cela étant, les procédés sont les mêmes. Si on s'interroge juste, par exemple, sur les acteurs clés de l'état d'urgence, sur le plan organisationnel, ce qu'on voit, c'est, par exemple, il y a les collègues sociologues du Centre de sociologie des organisations, là, Bergeron et Boraz, qui ont écrit un livre très intéressant sur le Covid-19 comme crise organisationnelle, où ils montrent très bien que ce qui est tout à fait fascinant dans les premiers jours du mois de mars 2020, c'est que la foultitude, parce que c'est vraiment d'une foultitude qu'il s'agit, d'institutions, d'agences spécialisées sur les questions de santé publique, de prévention, des risques sanitaires, etc., sont peu ou prou congédiés, enfin sont mis sur la touche totalement, parce que le réflexe du gouvernement qui est en train d'aller vers le dispositif d'état d'urgence qui va être mis sur pied dès le 23 mars, le réflexe du gouvernement, c'est de complètement resserrer le circuit de la décision politique autour de l'exécutif et plus encore autour du chef de l'État. Et donc, voilà, si vous vous rappelez, en fait, tout est complètement resserré autour du chef de l'État, entouré d'un conseil scientifique, sur lequel beaucoup d'encre coulera par la suite. Mais voilà, ce qui est très intéressant, c'est cette dimension, vraiment, il y avait beaucoup d'institutions qui existent, au conseil de la santé publique, haute autorité de santé, toutes sortes de plans de prévention des risques pandémiques ou sanitaires qui ne sont même pas activés, alors qu'ils existent, hein, et que l'État fort, l'État social, l'État providence se targuent précisément de se définir par le fait de posséder tous ces outils. Et on se rend compte qu'en réalité, ça ne sert pas à grand-chose qu'ils existent, vu qu'en situation de crise effective, ils sont mis sur la touche pour ce resserrement du circuit de la décision autour de l'exécutif. Et en réalité, il s'était passé exactement la même chose au moment de l'état d'urgence antiterroriste. Donc, ce n'étaient pas les mêmes acteurs, bien sûr. Mais je crois justement que c'est Boraz et Bergeron qui écrivent ça dans l'état au moment de l'état d'urgence antiterroriste. Je crois plus particulièrement, je crois que c'est Bernard Cazeneuve qui parlait en ces termes. C'était moins formalisé, mais il y avait une instance, visiblement, enfin une réunion, un groupe qui s'appelle le Fumoir et qui était un peu de la même manière, un tout petit groupe très resserré qui n'est pas institutionnalisé. Donc on ne sait pas exactement quelle est sa composition, on ne connaît pas ses procédures. C'est dur de travail. Il n'y a pas de relevé de décision. A fortiori de responsabilité. Donc ça, c'est exactement ce qu'on a eu sur le Conseil scientifique Covid, et c'est ce qu'on avait déjà en fait expérimenté autour du fumoir. Donc voilà, on a c'est pas les mêmes acteurs, mais on a des processus qui sont tout à fait semblables. Et on peut dire la même chose sur la manière dont les contre-pouvoirs qui sont censés justement venir encadrer un peu cette réaction de l'exécutif vont fonctionner ou moins bien fonctionner en période d'état d'urgence. Si on s'intéresse en particulier à ces contre-pouvoirs très importants que sont les juges, pendant l'état d'urgence antiterroriste, il y a évidemment beaucoup de choses très importantes qui se sont passées, mais si vous vous rappellerez certainement que donc l'état d'urgence il est déclaré mi-novembre et à la fin du mois de novembre était prévu la COP21 à Paris et autour de la COP21 toute une série d'actions, une mobilisation citoyenne de militants du climat, etc. Et vous rappellerez que il y en a un certain nombre d'entre eux, plusieurs dizaines, qui ont été frappés d'assignation à résidence pour précisément en lien avec le fait que toutes les manifestations autour de la COP21 avaient été interdites. Alors, une dizaine d'entre eux ont contesté ces assignations à résidence en justice, et le Conseil d'État, début décembre 2015, rend une décision qui est extrêmement importante. Il juge que le fait que l'état d'urgence antiterroriste soit utilisé pour des objectifs qui n'ont rien à voir avec la lutte contre le terrorisme, et là, ici, en l'occurrence, pour empêcher des militants, des activistes du climat de se livrer à un certain nombre de mobilisations politiques dont personne n'a jamais dit qu'elles avaient un caractère terroriste, ne pose pas de problème. Donc le Conseil d'État nous dit, voilà, l'état d'urgence, il a été déclaré pour la lutte contre le terrorisme, mais il peut être les mesures qu'il permet peuvent en réalité poursuivre des finalités autres. Et dans le même temps, le Conseil d'État dit, donc ça c'est la solution, et donc du coup il valide les assignations à résidence des militants écologistes. Néanmoins, dans le même temps, dans le même arrêt, le Conseil d'État dit, mais l'état d'urgence c'est très grave, je vais contrôler les mesures prises sur le fondement de l'état d'urgence de la manière la plus exigeante qui soit. Je vais appliquer les standards de contrôle, c'est dans le vocabulaire du juge administratif, c'est le contrôle de proportionnalité. Il va dire, voilà, moi, je pour vraiment garantir l'état de droit, je vais m'assurer que toutes les mesures prises sur le fondement de l'état d'urgence sont passées à la moulinette de la plus grande exigence juridictionnelle possible. Et avec un groupe de collègues de l'Université de Paris-Nanterre, on a, dans les mois et les années qui ont suivi, enfin jusqu'en janvier 2017, on a collecté toutes les décisions de justice qui avaient été rendues dans le cadre de recours contre des mesures prises sur le fondement de l'état d'urgence, pour voir si effectivement cette promesse du Conseil d'État à l'entrée dans l'état d'urgence, qui était d'appliquer un contrôle de proportionnalité, était tenue. Et on a dépouillé plus de 770 décisions de justice. Et le contrôle de proportionnalité, on ne l'a pas vu souvent. Voilà. On ne l'a vraiment pas vu souvent. Les juristes très techniciens, ils ont plein de cases dans leur tête. Alors il y a le contrôle de proportionnalité, il y a aussi le contrôle normal, le contrôle restreint, le contrôle de l'erreur matérielle. On a vu toutes sortes de standards de contrôle d'intensité variable, mais on a rarement vu le standard de contrôle, l'exigence maximale, qu'on appelle le contrôle de proportionnalité. Ça, c'est intéressant. Il y a une prise de position solennelle, très importante. Solennelle, c'est un arrêt de section par lequel le Conseil d'État avait dit contrôle de proportionnalité, garantie de l'état de droit, etc. Puis en fait, dans la réalité, c'est pas forcément ce qui va se produire. Alors, il se trouve que ce qui est intéressant, c'est que il y a quelques mois, en septembre 2021, le Conseil d'État lui-même a publié un rapport qui s'appelle « Les états d'urgence, la démocratie sous contrainte » en septembre 2021, que vous pouvez trouver sur Internet. Et page 131, on lit quelque chose de très intéressant dans ce rapport. On lit que, en effet, en période d'état d'urgence, il y a, je cite de mémoire, mais je suis à peu près sûr de mon coup, un réétalonnage de l'équilibre entre la liberté et les exigences de l'ordre public, et que, en effet, les exigences de l'ordre public prennent le pas. Donc, d'une certaine manière, le contrôle de proportionnalité ne s'exerce pas comme en temps normal. C'est-à-dire, en gros, quand on dit proportionnalité sous état d'urgence, en fait, on ne dit pas vraiment proportionnalité. En termes simples. Alors moi, je suis absolument ravie de lire ça à la page 131 du rapport du Conseil d'État de septembre 2021, parce que c'est ce que nous on dit depuis plusieurs années. C'est ce qu'on dit d'ailleurs sans être, je ne comprendrai peut-être pas, très bien accueilli par le Conseil d'État, qui en l'occurrence nous a signifié de multiples manières qu'il était extrêmement courroucé du fait qu'on avait pu écrire, alors encore dans des rapports de recherche qui ne circulent que peu en dehors des cercles académiques, c'est pas très grave, mais comme on a eu l'outrecuidance d'intéresser un certain nombre de journalistes et qu'il y ait eu des indications sur le fait que ce contrôle de proportionnalité, il était largement illusoire, ils étaient pas très contents. Donc moi je suis contente de voir que finalement ils doivent être finalement contents, puisque maintenant ils sont réconciliés avec eux-mêmes, ils reconnaissent tout à fait que le contrôle de proportionnalité n'est pas le même en état d'urgence et en dehors de l'état d'urgence. Donc on a toutes sortes de processus qu'on va retrouver. Ça, c'est, je vous ai parlé là essentiellement de l'état d'urgence antiterroriste, même si le rapport du Conseil d'État il porte aussi sur l'état d'urgence sanitaire. Et à vrai dire, dans l'état d'urgence sanitaire, cette idée qu'il y a une sorte de mansuétude du juge administratif, cette idée que le juge administratif a du mal à véritablement être exigeant avec les mesures prises par le gouvernement, là, pour le coup, c'est une idée qui s'est diffusée bien au-delà du cercle des spécialistes, des juristes qui analysent le droit, puisque, en fait, c'est une idée qu'on a trouvée très régulièrement, même dans la grande presse. Vous aurez peut-être souvenir d'un numéro du magazine hebdomadaire du Monde qui a été consacré au Conseil d'État, ça doit être en mars 2021, où il y avait un décompte. Les journalistes du Monde avaient fait un décompte sur le nombre de mesures d'état d'urgence sanitaire qui avaient été contestées devant le Conseil d'État, et on était à plus de 800. Et je ne me rappelle pas tous les chiffres, mais le dernier, c'était que sur un peu plus de 800 recours, le Conseil d'État s'était prononcé 8 fois dans un sens défavorable au gouvernement. Donc c'est, voilà, c'était bien dire qu'il y avait quelque chose comme, sinon une mansuétude, en tout cas une difficulté structurelle du Conseil d'État à véritablement mettre en difficulté, tenir en échec les décisions prises par le gouvernement, alors même que dans le même temps, comme le disait Arié, on a eu des mesures quand même multidirectionnelles, inédites, beaucoup d'institutions, d'organisations des spécialisés dans le suivi des droits humains ont diagnostiqué en France et ailleurs, hein, c'est pas forcément spécifique à la France, un niveau de restriction aux libertés tout à fait inédit en période de paix et peut-être même en période de guerre. C'est-à-dire, effectivement, confinement généralisé de la population, fermeture de tous les établissements recevant du public, couvre-feu, j'en ai quand même vécu sous une mesure de couvre-feu national pendant 8 mois, d'octobre 2020 à juin 2021. Donc, voilà, effectivement, il y a un contraste très fort entre l'intensité des restrictions aux libertés et le fait que sur 800 mesures contestées, il y en a 8 qui ont été finalement jugées dans un sens défavorable au gouvernement.
Alors, je vais essayer de compléter sur les points communs, notamment par rapport au sujet de droit. Donc là, d'un point de vue macro, on a effectivement la concentration des pouvoirs, la disparition du pouvoir législatif, de l'autorité judiciaire au profit de l'autorité administrative et pendant l'état d'urgence sanitaire, pratiquement totale disparition de l'autorité judiciaire, puisque ça se résumait uniquement à quelques matières pénales, souvent d'ailleurs pour juger les personnes qui avaient violé par trois fois les obligations de confinement, ne serait-ce qu'en ayant mal rempli leurs attestations de sortie. Attestation de sortie qui, au demeurant, vient de notre mécanisme. Si nécessaire, mais selon le législateur, c'était un simple document justificatif.
Par tout moyen, quoi.
Selon le ministère de l'Intérieur et dans nos esprits, parce qu'il y a aussi cette forme de croyance généralisée en ce qu'on nous dit alors que ce n'est pas dans la loi, il fallait une attestation qui est téléchargeable sur votre smartphone avec plein d'indications. Et il y a eu, par exemple, je vous donne des exemples de policiers ou de gardes forestiers, parce qu'il y a eu une extension des personnes qui étaient en mesure de faire ces contrôles d'attestation de sortie. Des personnes qui ont été verbalisées d'abord, une fois, ne serait-ce que parce qu'ils ont rempli leurs attestations au crayon à papier. Évidemment, ni dans la loi, ni dans aucun décret n'était indiqué qu'il fallait remplir l'attestation au crayon à papier. Il aurait suffi notamment d'un ticket de caisse pour montrer qu'on avait été faire des courses, pour justifier de son autorisation de sortie, dans les motifs prévus par la loi. Des personnes qui ont été verbalisées parce qu'ils avaient rempli deux cases. Deux motifs différents, parce qu'ils voulaient à la fois faire leur jogging et puis en profiter pour aller faire leurs courses de première nécessité. Il y a des personnes qui ont été verbalisées parce que parce qu'on a fouillé leur caddie et qu'on vérifie si c'était vraiment des éléments de première nécessité qui étaient achetés. C'est-à-dire qu'ils pouvaient acheter des citrons ou même pas forcément des citrons, parce que c'est pas forcément de première nécessité un citron. Mais véritablement, les caddies étaient fouillés dans certains cas. Il y a eu un certain nombre de recensements par la presse quand ils pouvaient le faire, parce que les journalistes non plus ne pouvaient plus vraiment sortir, ou très difficilement, ou étaient verbalisés eux-mêmes. Autant vous dire que oui, c'était une digression, mais c'est une digression importante, parce que qui avait le pouvoir à ce moment-là? Et c'est un des points communs entre les deux états d'urgence. Celui qui a le pouvoir normatif, c'est-à-dire de dire ce qu'il faut faire ou ne pas faire, ce qui est interdit ou ce qui est autorisé. C'est pas le législateur, c'est pas le gouvernement qui n'a pas pris de décret, c'est le policier ou le garde forestier qui va contrôler l'attestation et qui dit « voilà, ça, c'est la norme ». Et c'est une des caractéristiques de des deux états d'urgence, ou même d'autres encore, c'est qu'on va déléguer au policier le pouvoir de faire la norme. Et d'ailleurs, il y a eu une sortie de Darmanin un peu de temps après, c'était un lapsus, en tout cas, ça avait l'air d'être un lapsus, qui disait que c'est la police qui fait la loi. Lors d'une conférence ou quelques mois plus tard, qui avait été commentée d'ailleurs, mais c'était ça en fait, c'est ça un peu l'état d'urgence. On délègue aux policiers le pouvoir de décider de ce qui est autorisé ou pas en ayant des normes très molles. Les normes très molles, c'est qu'elles ne sont pas précises, alors qu'en matière pénale, et là on est en matière pénale, puisque quand on met une contravention à quelqu'un, voire lorsqu'on l'envoie devant un tribunal correctionnel, parce que quand on avait trois contraventions successives, dans un délai de 3 semaines, je crois, ou 30 jours, eh bien, on pouvait être renvoyé devant le tribunal correctionnel et encourir une peine de jusqu'à 6 mois d'emprisonnement. Et là, c'était complètement fou. Ça avait d'ailleurs été contesté, mais le simple fait d'avoir fait 3 erreurs dans une attestation ou d'être sorti sans attestation 3 fois, eh bien, on pouvait entraîner à la prison. Et il y a eu des personnes qui ont été emprisonnées, notamment des personnes qui étaient sans domicile fixe et qui ne pouvaient pas justifier qu'elles étaient chez elles, mais qu'elles étaient à l'extérieur. Il y a eu des personnes qui n'avaient pas bien compris le sens de ce qu'on leur demandait, qui ne comprenaient pas bien, ne serait-ce que parce qu'ils ne parlaient pas forcément français, ou parce qu'ils n'avaient pas forcément la télé, ou parce que voilà, il y a eu un certain nombre de choses complètement aberrantes, folles, avec un grand nombre d'emprisonnements. J'ai défendu des personnes, une joggeuse, qui est sortie et qui a été poursuivie parce qu'elle n'avait pas la télé, elle n'avait pas de téléphone portable. C'était quelqu'un qui vivait véritablement sans les moyens de communication qui nous aviennent, nous, mais elle ne savait pas véritablement qu'il fallait une attestation écrite. Elle était sortie, elle avait fait son jogging. Elle savait qu'il fallait être confinée, mais elle avait juste fait son jogging. Voilà, c'est effectivement un transfert, et c'est un peu ce si on le compare à l'état de droit et au transfert de l'état de droit vers l'état d'urgence, on peut analyser l'état d'urgence comme une forme d'état de police en ce sens. Pourquoi ? Parce que l'état de droit, c'est quoi ? D'abord, c'est une construction assez moderne, l'état de droit. Hein. C'est pas la démocratie, l'état de droit. C'est le fait d'abord que le pouvoir réglementaire détient son habilitation du législateur, donc c'est le peuple qui fait la loi, le peuple souverain, et l'exécutif ne fait que exécuter ce que la loi l'autorise à faire. Ça, c'est l'un des premiers critères de l'état de droit. L'un des deuxièmes critères, c'est qu'on a toujours un droit de recours contre une décision individuelle qui est prise contre soi par le gouvernement. C'est justement pour lutter contre l'arbitraire. Et quand on voit que c'est la police qui détient ce pouvoir dans les différents états d'urgence, eh bien, on se dit que l'état d'urgence commence à ressembler de facto, hein, parce que le législateur n'effectue plus son pouvoir de précision légale, eh bien, on passe vers un état de police. Autre point caractéristique des deux états d'urgence, d'un point de vue du sujet de droit. C'est important parce que le sujet de droit, c'est quoi d'abord le sujet de droit, pour comprendre rapidement. Le sujet de droit, c'est une protection de chaque individu. On est tous attributaires de droits, d'obligations éventuelles, mais en tout cas, dans son rapport à l'État, on est considéré comme un sujet de droit, une personne. La notion de personne, d'ailleurs, ça vient du latin et du grec, ça veut dire masque, ça veut dire qu'on a une permanence juridique qui fait qu'on n'est pas l'individu qui évolue depuis sa naissance, de bébé jusqu'à l'âge adulte, et ce qui permet justement d'être appréhendé dans le système juridique, dans cette permanence. Et en même temps, c'est une protection juridique, c'est-à-dire qu'on a les mêmes droits que tout le monde, avec des différences de situation appréciables selon certaines choses, mais on a toujours les mêmes droits, et c'est ça qui fait cette protection juridique dans un état de droit. Et ce que l'on voit dans l'état d'urgence de 2015, mais également dans l'état d'urgence sanitaire, c'est que cette protection juridique va progressivement disparaître. Pendant l'état d'urgence sécuritaire de 2015, c'est un peu plus... c'est moins visible, mais effectivement, les musulmans, les personnes de confession musulmane vont être traitées différemment et auront moins cette protection de sujet de droit. Et ça va se voir dans les discours. Alors, tout le monde ne peut pas le voir. C'est-à-dire qu'il faut être praticien du droit et défendre des personnes qui sont assignées à résidence ou perquisitionnées pour comprendre le discours latent qui va se développer au sein du ministère de l'Intérieur, et pas que, hein, dans différentes instances de pouvoir, et qui va créer une continuité. Et on le voit dans les mémoires du ministère de l'Intérieur lorsqu'on conteste les assignations à résidence et les perquisitions administratives. On va devant le juge administratif, on est avec la personne qui a été assignée à résidence. Si elle a la possibilité de venir au tribunal, parce que si elle sort, il faut une autorisation de sortie, on ne l'a pas forcément, parce qu'on n'a pas forcément le temps de la voir. Déjà, elle n'a pas forcément le droit de venir devant ses propres juges pour s'expliquer. Il y a beaucoup de gens que j'ai défendus qui n'ont pas pu venir, parce qu'ils étaient loin du Conseil d'État, qui vivaient en province, et que s'ils sortaient, ils se faisaient arrêter et ils allaient directement au tribunal correctionnel et en prison éventuellement. Et puis le discours qui est développé dans les mémoires du ministère de l'Intérieur, c'est la chose suivante, c'est il y a une continuité entre la pratique de l'islam, l'islamisme et le terrorisme. C'est un discours qui est développé et que l'on voit développer, notamment, je vous donne un exemple, dans les mémoires, dans beaucoup de mémoires du ministère de l'Intérieur, et Stéphanie a dû en voir quelques-uns, il y a un... On arrive avec, bon, évidemment avec ces notes blanches qui ne sont pas vraiment des preuves. Là aussi, c'est une réduction de la protection juridique et du sujet de droit, parce que c'est uniquement quelqu'un dont on ne connaît pas l'origine, qui n'a pas daté sa note blanche et on ne sait pas d'où viennent ses renseignements. Et pourtant, le Conseil d'État considère que c'est une preuve en soi. À partir du moment où on peut la justifier, mais le tribunal administratif, par exemple, il laisse passer la plupart des notes blanches en disant que c'est une preuve. Si on n'arrive pas à la contester, eh bien, ça maintient la mesure d'assignation à résidence. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'on voit ce discours, dans le mémoire du ministère de l'Intérieur, est publié et diffusé une page du magazine, je crois que c'est Tabik ou c'est un autre magazine de l'État islamique, qui parle de la taqiya. La taqiya, c'est quoi? En tout cas pour le ministère de l'Intérieur, c'est un peu plus complexe que ça, mais c'est l'art de la dissimulation dans l'islam. Et le ministère de l'Intérieur nous dit, voilà, on a un vrai problème, c'est que... les terroristes disent que et font la promotion de la taqiya et disent à tous ceux qui ont une vocation terroriste de dissimuler leur propre religion, de continuer à boire, de continuer à festoyer, à sortir et à ne pas montrer leur radicalité selon le ministère de l'Intérieur et donc à masquer cela. À partir de ce moment-là, évidemment, on n'a pas de preuve contre la personne qui a assigné à résidence. Mais si on n'a pas de preuve, c'est parce qu'il pratique la taqiya. Et le fait même qu'on n'ait pas de preuve et qu'il n'y ait pas d'élément de radicalité montre, au contraire, plus encore, que c'est probablement un radicalisé, puisqu'il pratique la dissimulation. A fortiori, donc, c'est quelqu'un qui est radicalisé, vous devez maintenir la mesure d'assignation à résidence. J'avais jamais vu un tel sophisme de ma vie, mais ça passe devant les plus grandes instances que sont le Conseil d'État. Ils ont maintenu souvent au motif de cette taqiya et de ce discours. Mais ce discours, il est révélateur de quoi? Il est révélateur que d'une chose, c'est qu'on passe d'une protection juridique où toute personne doit être traitée de la même manière, quelle que soit sa confession ou sa non appartenance, à un discours où l'on fait primer la confession dans un discours de continuité entre la confession de l'islam à l'islamisme et puis au terrorisme, et finalement on essentialise l'individu. Et c'est un mécanisme qui se retrouve à la fois dans l'état d'urgence terroriste, cette essentialisation, mais également dans l'état d'urgence sanitaire pour terminer, parce que dans l'état d'urgence sanitaire, comment est-ce qu'on a essentialisé? Il y a un autre mécanisme d'essentialisation qui est celui de considérer que on va assigner à résidence tout le monde. Pourquoi? Parce que tout le monde est susceptible d'être contaminé. Et là, on parle... c'est ça, le raisonnement, qui peut se tenir en termes de santé publique, mais c'est le raisonnement qui est tenu. Tout le monde présente une dangerosité. Tout le monde peut être vecteur du virus. Et donc, on passe d'un raisonnement purement juridique à un raisonnement purement biologisant. Et donc, on essentialise là aussi, et on détruit la protection juridique de l'individu en essentialisant cette fois de manière biologique et en assimilant l'individu, le sujet de droit, la personne, à un virus, puisque c'est le vecteur du virus qui est susceptible de contaminer tout le monde. Et c'est comme ça que l'on réduit les protections juridiques. On passe toujours par une essentialisation pour réduire les protections juridiques. C'est aussi un des facteurs communs des états d'urgence.
Donc voilà, quel type de retour ou quel type de protection? Est-ce qu'il y a encore des contentions en cours aussi, par exemple, au niveau CEDH? Une espèce de points sur les capacités à limiter, les capacités à retourner en arrière et les perspectives éventuelles sur ces questions importantes.
Alors, sur le morceau de la question, sur la possibilité de retourner en arrière ou de corriger le tir, enfin, selon la manière dont on veut le dire, bon, moi, je suis assez pessimiste, à vrai dire. Donc je suis pas quelqu'un avec qui il faut parler. Je sais pas quel jour on est et quelle heure il est, mais je suis pas très optimiste. C'est-à-dire, en fait, je crois pas du tout. Je crois vraiment que parmi les nombreuses leçons qu'on peut en tirer, une des leçons qu'il faut vraiment tirer de ces deux expériences récentes de l'état d'urgence, c'est que ce sont vraiment pas des parenthèses qui, se refermant, permettraient de retourner au statu quo ante. Il y a des déplacements de curseurs. Quand on finit par parvenir à plus ou moins lever l'état d'urgence, à dire qu'il prend fin, on se trouve dans une situation qui est bien différente de celle dans laquelle on était lorsque il a commencé. Et de ce point de vue, d'ailleurs, juste pour rebondir sur ce que disait Harry à l'instant, et qui me semble hyper important, sur la manière dont l'état d'urgence, en particulier l'état d'urgence antiterroriste, a été un moment d'une importance cruciale du point de vue de la diffusion dans l'appareil d'État d'un discours sur les personnes de confession musulmane qui est absolument hallucinant. Très sincèrement, le discours qu'on a beaucoup... sur lequel a glissé comme du velours, et c'est la raison pour laquelle elle a été adoptée avec finalement autant de facilité, la loi du 24 août 21 sur les séparatismes, enfin la loi séparatisme, là, la loi confortant les principes de la République. Ouvrez deux pages des débats parlementaires qui ont présidé à l'adoption de la loi séparatisme, c'est à ne pas y croire. Hein. Enfin, c'est une stigmatisation des musulmans, cette idée du continuum et en fait, elle sous-tend complètement la logique du texte. C'est-à-dire, Darmanin présente le texte en disant « La République est malade, le mal, c'est l'islam radical qu'il faut combattre. » Et on va interdire, je ne sais pas quoi, des horaires de piscine. Donc, il y a un continuum. Toute la loi, tout le projet de la loi est sur cette idée du continuum. Donc, ce que disait Harry est absolument capital. Et par rapport à ce que j'essayais de dire sur le fait qu'il y a des déplacements de curseurs, etc., c'est qu'en fait, on ne retourne pas en arrière. Voire même, c'est un peu une sorte de fuite en avant. C'est-à-dire que ce discours qui a infusé le régime d'exception, la réponse au terrorisme, devient le discours officiel confortant les principes républicains. Donc on conforte les principes républicains en légiférant sur l'idée qu'il y a un continuum entre le port du hijab futile, fluo, accompagné de string et je sais pas quoi, et le terrorisme. D'accord ? Donc voilà, je crois effectivement qu'il y a des déplacements de curseurs qui sont très très graves et que je vois pas très bien exactement comment on peut retourner au point de départ, enfin au statu quo hanté. Donc ça c'est une chose très préoccupante. Il y a pas à dire autrement. La première partie de ta question qui était comment est-ce qu'on peut expliquer que ces déplacements de curseurs se passent, et alors tu disais est-ce qu'on peut faire une sociologie des acteurs, alors ça serait vraiment passionnant, c'est-à-dire que je pense vraiment que celui ou celle d'entre nous qui parviendra à nous expliquer exactement qui sont les... Sont-ils 5? Sont-ils 7? Ça peut pas être beaucoup. Hein. Petite plume du ministère de l'Intérieur qui, en 2015, 2017 et puis 2020, nous ont pondu l'extraordinaire quantité. Les types, ils ont bossé. Hein, l'extraordinaire quantité de textes inventifs. Ça, on peut pas le nier. Dont ont été faits ces états d'urgence. Je pense que c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Alors, évidemment, il y a des éléments sociologiques qu'on connaît un petit peu plus, ou en tout cas de. Je ne sais pas si c'est des éléments strictement sociologiques, mais en tout cas sur la circulation justement de ces nouveaux modes de gouvernement. Enfin, on voit bien, par exemple, tout ce qui s'est passé, c'est tout à fait passionnant, tout ce qui s'est passé autour de la mise à disponibilité du vaccin, et évidemment en lien avec la sociologie de l'action publique du macronisme, c'est-à-dire alors même qu'on est un des pays qui a une très forte tradition de sécurité sociale, de santé publique, qui a des caisses primaires d'assurance maladie à tous les coins de rue, ou presque, à partir du moment où le vaccin devient disponible, comment est-ce qu'on va faire en sorte que le vaccin rencontre la population? On va passer par des plateformes privées, Doctolib. C'est incompréhensible. C'est tout à fait incompréhensible. Enfin, on est vraiment un des pays qui avait la solution immédiate qui était convocation de la CPAM. C'était vraiment l'évidence. Et on passe par d'autres dispositifs. Et tout comme on va passer ensuite, au lieu de passer ce qui, là encore, pouvait très bien se raccrocher à une tradition de santé publique très éprouvée dans la construction de l'État français, pas seulement d'ailleurs du système de santé français, passer par une obligation vaccinale. Non, on passe par quelque chose qu'on peut présenter un peu comme un nudge, c'est-à-dire non, t'es pas obligé de te vacciner, enfin simplement tu pourras plus aller au ciné, tu pourras plus aller au stade, tu pourras plus aller au musée, etc. Enfin, voilà, donc voilà, ça je crois qu'on, voilà, il y a un peu des éléments de, je sais pas si on peut, c'est peut-être pas les éléments de sociologie au sens où tu l'entendais, mais tu vois, il y a vraiment une sorte de conception de l'action publique là, qui est tout à fait, enfin dont on voit bien la congruence qu'elle a avec ce qui nous est dit sur d'autres sujets par le gouvernement actuel. Mais au-delà de ça, moi, au-delà des éléments sociologiques, moi, en tout cas, ce qui m'a beaucoup frappé à travailler sur ces questions depuis plusieurs années, je disais tout à l'heure que la spécificité des états d'urgence 2015-2017 et depuis 2020, c'est cette manière dont ils s'ancrent dans la durée et deviennent vraiment un nouveau paradigme de gouvernement. C'est-à-dire, voilà, on a été, depuis 2015, beaucoup plus de la moitié du temps sous état d'urgence. On est désormais gouverné par l'état d'urgence. Voilà, enfin, c'est un peu la nouvelle normalité politique. Donc ça, je pense que c'est en effet une grande spécificité de ce qui nous est arrivé depuis 2015. Je pense qu'une deuxième spécificité de ce qui nous est arrivé depuis 2015, c'est un changement dans les discours dont cet état d'urgence a été accompagné. Et Haye faisait référence tout à l'heure à certains grands textes de la théorie politique et juridique sur qui ont marqué l'histoire de la réflexion sur la manière dont les États réagissent à des menaces existentielles, hein, réagissent à des situations de crise, etc. Et en effet, Schmitt, Agamben, etc., qui ont pensé l'état d'exception, et qui sont très utiles, bien sûr, pour penser ces régimes d'état d'urgence, c'est vrai qu'ils définissent vraiment l'état d'exception comme un moment, on l'a dit déjà, de suspension du droit. Et je pense que ce qui se passe depuis 2015, c'est sur ce point précis, un peu différent, parce que d'abord, comme on l'a dit à plusieurs reprises, le droit il n'est pas suspendu, au contraire on a énormément de droits, etc. Mais surtout, le discours qui accompagne, c'est le discours de dire l'état d'urgence, ça n'est pas l'antonyme de l'état de droit. Ça n'est pas la négation de l'état de droit. Ça n'est pas la suspension de l'état de droit. Au contraire, nous dit-on, l'état d'urgence est compatible avec l'état de droit. On nous dit même que l'état d'urgence est nécessaire à l'état de droit. Bernard Cazeneuve, Premier ministre, dira même l'état d'urgence est constitutif de l'état de droit. Donc ça, c'est un discours qui s'est profondément ancré depuis 2015. Valls, Hollande, Cazeneuve sont vraiment des figures de proue, hein, de ce discours de la mise en compatibilité de l'état d'urgence avec l'état de droit. D'une certaine manière, l'idée qu'on nous fait passer derrière, c'est que, d'une certaine manière, aux états d'exception un peu brutaux, à la Schmitt, antidémocratique de jadis, aurait succédé une sorte de forme soft démocratique de l'état d'urgence. Et ce qu'on nous dit ici, c'est que l'état de droit, d'une certaine manière, a réussi à domestiquer l'exception. L'état de droit domestique le gouvernement de l'exception, littéralement. Et effectivement, on a beau jeu de nous dire, mais l'état de droit, la démocratie ne sont pas du tout suspendus. Le Parlement vote l'état d'urgence, il vote les prorogations. Le juge est là pour contrôler les mesures, etc., etc. Et là, je pense qu'il y a quelque chose de très périlleux. Je crois qu'il y a quelque chose de très périlleux parce que ce qui se passe, c'est une sorte de corruption du langage par lequel on a structuré les grandes catégories de notre lecture politique du monde. Parce que quand on dit que l'état d'urgence est constitutif de l'état de droit, en fait, ça devient difficile de discuter. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mots qui perdent de leur sens. Et d'ailleurs, une fois qu'on a dit que l'état d'urgence était constitutif de l'état de droit, c'est pas très difficile de dire, par exemple, que la loi pour une sécurité globale préserve les libertés, comme c'est son titre. D'accord ? Quoi qu'on pense de la loi sécurité globale, il faut quand même se lever très tôt le matin pour y voir la consécration des libertés. Mais elle s'appelle loi pour une sécurité globale préservant les libertés. Et de la même manière, on peut dire, n'importe quel exemple qui vient par la tête, mais on peut dire par exemple que la laïcité requiert le cantonnement de la religion à la sphère privée. On ne peut plus manifester sa religion. On peut dire ça. en fait, on peut tout dire une fois qu'on a dit que l'état de droit était, que l'état d'urgence était constitutif de l'état de droit. Et ça, je crois que c'est voilà, c'est quelque. Je dis pas, je sais pas ce qu'il faut faire. Enfin, je sais pas comment on contre ce type de capture du sens même des mots. Mais je crois qu'en revanche, dans un premier temps, il faut déjà le documenter, le souligner. Enfin, voilà, il y a des choses très importantes qui se passent, je crois, quand non seulement on a cette banalisation de l'état d'urgence comme mode de gouvernement, mais qu'en plus, ça s'accompagne de ce discours selon lequel l'état d'urgence serait en réalité une nécessité quasiment démocratique.
Moi, ce que j'entends concrètement, c'est exercice du pouvoir. Globalement, l'état d'urgence, c'est une façon, alors certes, de prendre des mesures pour lutter contre une menace terroriste et pour lutter contre une menace sanitaire. On sait qu'elles auraient pu être prises différemment. On sait que normalement, elles auraient pu s'inscrire uniquement dans l'urgence, c'est-à-dire dans le moment où on doit prendre les mesures, et puis après on repasse à un état normal. On a besoin d'un moment pour concentrer tous les pouvoirs, prendre les décisions pour lutter contre la menace sanitaire ou contre la menace terroriste, et puis après, hop, on reprend normalement le chemin normal. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une pérennisation systématique de l'état d'urgence et qui s'intègre dans l'état de droit. Pour la loi de 2015, c'est devenu la loi SILT, avec les mesures qui se sont intégrées dans le droit commun. On est en état d'urgence permanence en matière terroriste. Et pour l'état d'urgence sanitaire, on l'a créé, il est devenu pérenne, et on vivra toujours avec. Mais donc, la sociologie, je vais vous raconter une petite anecdote, parce que avec le réseau état d'urgence, on a été rencontré Emmanuel Macron justement au moment de l'adoption de la loi SILT. Ce moment fatidique, critique, où l'état d'urgence normalement doit s'arrêter, et finalement on décide, alors d'abord de le pérenniser au fur et à mesure. On a été voir les parlementaires, on leur parlait, ils nous disaient, on aimerait beaucoup y mettre un terme. Et ils étaient sérieux, hein, même il y avait eu des parlementaires de tous bords, mais ils voulaient vraiment y mettre un terme. Les sénateurs d'ailleurs. Ils nous disaient, mais le problème, c'est un problème politique. C'est comment est-ce qu'on fait pour justifier, si nous, on arrête l'état d'urgence, derrière qu'il y a un autre attentat terroriste, comment est-ce qu'on fait pour justifier auprès de la population qu'on a arrêté l'état d'urgence? Alors qu'on sait pertinemment que ce n'est pas l'état d'urgence qui va empêcher l'acte terroriste. Donc il y a d'abord une fonction psychologique, et surtout c'est une décision politique. Mais la sociologie, donc Emmanuel Macron, on va le voir, on est reçu à l'Elysée dans le Salon Vert, et on lui parle, on lui dit, il y a le syndicat de la magistrature qui a un discours extrêmement précis, rigoureux, qui explique la dangerosité de cette loi SILT, de la transformation de l'état de droit de manière permanente et définitive, de la menace pour les institutions et pour la démocratie. Il nous regarde, c'était le tout début de son mandat. Il y avait le CCIF. Non, il n'y avait pas le CCIF qui n'avait pas été accepté. En revanche, il y avait Sia. Ouais. Alors moi j'ai fait un peu le comparon, je lui ai dit, je lui cite Agamben. Je lui ai montré que je connaissais un philosophe sur l'état d'urgence. Il nous a parlé de Carl Schmitt. Et là, on sent quand même une forme d'inspiration philosophique et de vision du pouvoir. Parce que Carl Schmitt, c'est une vision extrêmement verticale où la politique prime sur le droit. C'est justement le souverain qui décide de l'état d'urgence. Il est souverain parce qu'il peut décider de la suspension de l'ordre. Bon, on se dit, il veut aussi nous montrer qu'il connaît un philosophe. On sort du salon et il me serre la main assez fort, il me regarde droit dans les yeux, il me fait... Et là, il me cite Carl Schmitt, mais en allemand. Je parle pas allemand, mais j'ai retenu un peu les mots et je suis allé voir la citation. Et effectivement, je me suis rendu compte qu'il était profondément inspiré par... non pas par Ricoeur, mais probablement par Carl Schmitt. Et là, c'est vraiment la sociologie de cet individu, enfin, en tout cas l'aspiration de cet individu. Il a cette vision extrêmement verticale du pouvoir, déjà prête, déjà organisée, et effectivement, c'est une volonté politique de venir là. C'est-à-dire de venir sur cet état d'urgence et d'utiliser l'état d'urgence, qui est un outil, normalement, juridique, ponctuel, pour augmenter la capacité du pouvoir. de manière pérenne. Et donc de réduire et de déséquilibrer les équilibres institutionnels. Mais je pense qu'on ne peut pas forcément... Je reviens à ce qu'on nous disait au départ. On cherche aujourd'hui une définition de l'état d'urgence où on cherche à comprendre comment ça fonctionne, pour éventuellement le combattre, pour en sortir. Nous, en tant que militants, chercheurs, avocats, universitaires. Je pense qu'on se trompe dans la façon d'essayer de comprendre ce qu'est l'état d'urgence. Ce n'est pas uniquement avec le droit qu'on pourra le comprendre. C'est peut-être avec le droit qu'on pourra le combattre. Ça, c'est autre chose. Mais l'état d'urgence, il est, c'est un mode d'organisation du pouvoir. Et ce à quoi on assiste, et c'est peut-être pour ça que... qu'on a un peu de mal à comprendre par rapport à nos prédécesseurs qui ont essayé de nous donner des lectures de ce qu'était l'état d'urgence. C'est pas le même état d'urgence, effectivement. Ce que décrivait Agamben et Carl Schmitt, c'est pas la même chose. La suspension de l'ordre juridique, la dictature de commissaires, tout ça, c'est hop, on arrête et on reprend, et il y a peut-être une révolution et on reprend, et voilà, stop et on reprend. C'est pas la même chose. C'est un nouvel outil qui s'est créé. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans toute l'histoire du pouvoir, il y a toujours des nouveaux outils différents qui se créent. Là, cet outil, il utilise le droit comme arme. Mais il faut commencer par la guerre. Et effectivement, il y a une continuité entre les rapports de force qui s'exercent au moment de la guerre, les rapports de pouvoir multiples qui existent, avec des formations collectives, et finalement, l'un qui l'emporte sur l'autre. Qui va instaurer un ordre juridique qui dépend de cette asymétrie, puisque l'ordre juridique qui va être instauré à l'issue de la guerre, eh ben, il va être forgé par le souverain. C'est lui qui va décider de cet ordre juridique. Et donc, l'ordre juridique lui-même, il est asymétrique, complètement, et il est là pour pérenniser une forme de domination d'une partie sur l'autre. La politique, c'est pareil, puisque c'est la continuité de la guerre, et inversement. Et je pense qu'il y a une continuité entre la guerre, la politique, et également le droit et l'ordre juridique et le judiciaire. Et l'état d'urgence n'en est qu'une autre forme encore. Il y a juste des transformations de formes d'organisation des rapports de pouvoir individuels et collectifs dans toutes, entre la guerre, la politique, le droit et l'état d'urgence. Et à partir du moment où on a cette grille de lecture, on sait que, eh bien, par exemple, combattre l'état d'urgence, ça ne se fera pas uniquement dans une lecture du droit, mais dans une lecture à la fois, elle est aux marges du droit, de la politique et des autres rapports de force qui existent dans la société. L'une des armes, qui évidemment est asymétrique, puisqu'elle est un outil de répression dans la façon dont elle a été forgée historiquement, qui est le droit. Et on le voit notamment quand on est avocat et quand on défend des manifestants. On voit que les manifestants ont beaucoup moins de chances de pouvoir être relaxés, ont beaucoup plus de chances d'être poursuivis qu'un policier qui va les frapper alors que le policier les a frappés et a commis des violences policières. Il y a une asymétrie véritable entre eux, on l'a vu encore plus de manière manifeste dans le mouvement des Gilets jaunes, entre les Gilets jaunes qui sont arrêtés pour rien, souvent de manière abusive, interpellation abusive massive, par décision politique, avec l'outil judiciaire, puisqu'il y avait une collaboration entre le préfet et le procureur de la République qui est encore plus visible aujourd'hui. Vous allez voir, dans pas très longtemps, il y a des vidéos qui vont sortir sur la préparation des manifestations préalables où on voit le préfet, le DOPC, qui parlent de cette collaboration entre le parquet et le préfet. Il y a des réunions qui sont filmées à la préfecture. Et on les a récupérées. Et vous allez voir que ça caractérise cette collaboration entre le pouvoir, entre l'autorité judiciaire, le parquet essentiellement, et le préfet qui est le représentant de l'État. Et donc, à partir de ce moment-là, à partir du moment où on a une asymétrie, on se dit, bon, bah, le droit, c'est mort. On ne va pas pouvoir en faire grand-chose. Est-ce qu'on peut utiliser le droit, ne serait-ce que pour comprendre ? Je pense que non. Mais tout au moins pour combattre l'état d'urgence qui est décidé par le souverain et qui est confirmé par le Conseil constitutionnel. Juste un mot, le Conseil constitutionnel, au début de l'état d'urgence sanitaire, il a fait quoi ? Il a finalement confirmé la vision schmittienne de Macron. Comment ? Il a été saisi, c'était la première saisine d'ailleurs du Conseil constitutionnel au tout début de l'état d'urgence sanitaire. On l'a saisi parce qu'on a dû changer une loi organique. Et cette loi organique, elle portait justement sur le délai de saisine du Conseil constitutionnel. Il y avait normalement 15 jours Et le Conseil, et cette saisine était illégale parce qu'on n'avait pas respecté le délai de 15 jours. Donc le Conseil constitutionnel aurait dû dire, bah, la façon dont vous m'avez saisi est illégale, donc je censure ce texte. Et le Conseil constitutionnel a dit circonstance exceptionnelle. Alors, c'est pas exactement le terme qu'il a utilisé.
Particulière.
Circonstance particulière. Mais évidemment, ce sont les circonstances exceptionnelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la décision politique prime sur la Constitution elle-même. Ce qui veut dire que le pacte social, finalement, est en dessous du souverain. Et c'est exactement la vision schmittienne qui prime. Alors, et c'est la première fois dans toute la Constitution, dans toute la Ve République, qu'enfin le Conseil constitutionnel a accepté, n'a pas été hypocrite finalement, et a enfin dit oui, c'est la décision politique qui prime sur le pacte social et sur le contrat et sur le droit. Donc évidemment, on a ce constat. Et en même temps, le droit, même s'il est forgé dans la symétrie et dans la domination, et dans ses rapports de domination, ça n'est pas que ça. L'outil n'est jamais neutre, mais ça reste un outil. Et ça, prof Yann Thomas, qui m'a toujours dit que, et qui a toujours dit à ses étudiants que, d'abord qu'il n'y avait pas de fonction anthropologique du droit, c'était un grand débat avec Legendre, mais surtout que le droit était un outil et qu'on pouvait en faire ce qu'on voulait. Et qu'on pouvait le retourner contre le dominant, contre celui qui l'avait forgé. Et je le crois profondément. Et je pense qu'on peut utiliser le droit, et en tout cas dans la pratique judiciaire qu'on a, avec des avocats militants, avec des organisations de droits humains, on va de plus en plus vers ça. On essaye de retourner le droit contre celui qui essaye de restreindre l'état de droit. C'est une piste, c'est pas la seule piste, mais déposer des plaintes contre des hauts fonctionnaires. On a vu à quel point ça a tourmenté les esprits des hauts fonctionnaires pendant l'état d'urgence sanitaire. Mais vous comprenez, vous allez détruire la République, vous allez détruire en vous déposant des plaintes contre des hauts fonctionnaires dans la prise de décision sur les masques ou sur l'état d'urgence sanitaire. C'est pas la responsabilité politique, elle existe, mais c'est pas la responsabilité pénale. Il y a eu tout un discours qui a été fait, et on a vu à quel point ça les a chamboulés que d'être attaqués sur ce point-là. Il y a également la possibilité de faire concourir de la même manière que ce qu'est l'état d'urgence. Le média, le politique, la manifestation, le militantisme et le droit, avec des actions judiciaires. Et je crois que c'est là que ça se trouve, pour arriver à un moment ou à un autre à transformer ce rapport de force figé dans le droit et à le faire basculer. Parce qu'à un moment, ça bascule. Et donc c'est dans cette alliance entre médias, qui est un pouvoir en soi, très important, très lourd, politique, militantisme, et action judiciaire, que l'on pourra, à un moment ou à un autre, arriver à faire basculer les choses. Mais pourquoi les faire basculer? Pas pour en avoir un autre régime de domination, mais pour avoir un régime différent où on refond le droit. Où le droit ne doit plus, ou en tout cas doit tendre, non pas vers être un outil non neutre de répression, mais être un outil en soi, même s'il n'est jamais véritablement neutre, mais de, en tout cas, vers un outil progressiste. Voilà, c'est l'une des voies, en tout cas, qu'on essaye de forger aujourd'hui.
Merci beaucoup.